4. Le cachalot blanc. Ce que je ne savais pas en m'embarquant sur le Pequod, je l'ai appris en mer. J'ai compris beaucoup de choses par l'observation, l'action et grâce aux récits des marins sur les baleines, sur leur chasse et sur Moby Dick. Tout ce que j'ai compris, je le dois essentiellement au Pequod. Ces mois de navigation ont été ma grande école, mon université. Je vais vous raconter notre aventure. Je vais vous parler des baleines et de Moby Dick. Mais auparavant, pour que vous compreniez bien, je dois vous parler de l'intérêt de la chasse à la baleine. Oh, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que la chasse à la baleine est une activité honteuse. Vous pensez qu'une fois partis, nous ne valons plus rien, que nous ne sommes pas pardonnables, que nous sommes des tueurs. Je le sais. Pour nous, les chasseurs de cétacés, vous n'avez que du mépris. Vous pensez que ceux qui partent chasser les grands mammifères marins ne sont que des bouchers. Et c'est vrai. Vous avez raison. Nous sommes des bouchers, nous tuons et nous découpons, puis nous utilisons l'animal. Mais, je vous le demande, réfléchissez un instant, car ce jugement sur les chasseurs de baleines n'est pas juste. Et afin de corriger cette injustice, j'aimerais vous démontrer l'importance de cette activité. Lorsque les soldats reviennent de la guerre, ne sont-ils pas reçus comme des héros? Les militaires qui, en plus des batailles, gagnent les honneurs et l'admiration de tous, sont fiers de leurs médailles sanglantes. La mort n'est-elle pas leur métier? Ne sont-ils pas des bouchers, eux aussi? Et puis, dites-moi, ces soldats, vous les admirez pour leur courage, n'est-ce pas? Eh bien, je peux affirmer que ces soldats qui partent fièrement à la guerre fuiraient rapidement face à un cachalot plongeant, se dressant hors de l'eau et dont la queue vient frapper l'océan. Si notre activité continue à vous inspirer le plus profond dégoût, n'oubliez pas ceci. Alors que le monde entier nous méprise, il nous rend hommage malgré lui, il nous adore sans le savoir. De part et d'autre de la terre, en effet, presque toutes les bougies et les lampes brûlent en l'honneur de notre succès. En Angleterre aussi, c'est grâce à nous que les rois reçoivent l'huile la plus douce, la plus délicate, la plus précieuse pour leur couronnement. Il ne faut pas l'oublier. Je ne vous ai donné que quelques arguments parce que je n'aurai pas le temps de dresser un inventaire précis de tout ce qui donne leur puissance aux baleiniers. Mais laissez-moi ajouter quelques questions et quelques chiffres qui seront bien plus convaincants qu'une longue démonstration. À votre avis, pourquoi la Hollande avait chargé des amiraux de gérer ses flottes de baleiniers? Pourquoi Louis XVI, roi des Français, a-t-il armé avec son propre argent des baleiniers à Dunkerque et a-t-il invité dans cette ville du nord de la France une trentaine de familles de notre île de Nantucket? Pourquoi dans les années 1760, la Grande-Bretagne a-t-elle versé à ses baleiniers des primes allant jusqu'à 1 million de livres? Et enfin, pourquoi nous, les baleiniers d'Amérique, sommes plus nombreux que la totalité des baleiniers des autres pays? Pourquoi avons-nous une flotte de 700 bateaux avec 18 000 hommes? Pourquoi chaque navire vaut 20 millions de dollars et rapporte 7 millions de dollars? N'est-ce pas là suffisamment de preuves que les baleiniers enrichissent les pays? Vous admirez également les explorateurs, n'est-ce pas? Leurs récits de voyage, tellement aventureux et exotiques, vous émerveillent. Eh bien, sachez que la plupart des terres ont été défrichées par des chasseurs de baleines. De nombreux capitaines, dont personne ou presque ne connaît le nom, ont été beaucoup plus valeureux que le capitaine Cook. Connus de tous. Ce sont eux qui ont osé conquérir l'Australie. Ce sont eux encore qui ont ouvert la communication avec les colonies espagnoles d'Amérique du Sud, permettant la libération du Chili, de la Bolivie et du Pérou. Tous ces marins aventuriers ont certes un travail pénible, désagréable à certains moments, cruel aux yeux de la plupart des gens. Mais leur courage est immense, surtout lorsqu'il s'agit de chasse au cachalot, car c'était là la chasse la plus dangereuse. Les plus courageux partaient pour les mers du Sud, qui sont infestées de requins. Ils n'y allaient pas pour confronter leur force à celle des requins, mais pour trouver des cachalots, les plus gros mammifères marins. À leur retour, ces hommes qui n'avaient peur de rien racontaient leurs aventures aux habitués de la chasse à la baleine du Groenland, qui les écoutaient comme des enfants écoutent des contes, assis le soir près de la cheminée, totalement fascinés et parfois terrifiés. Parmi les cachalots, il y en avait un hors du commun. Les chasseurs de baleines l'avaient surnommé Moby Dick, la baleine blanche. Elle était énorme et vivait à l'écart des autres cachalots qui normalement vivent en groupe. Très peu de marins connaissaient ce monstre solitaire, et moins encore l'avaient attaqué en sachant qu'ils attaquaient Moby Dick. Les marins qui l'ont combattu ont tous ressenti la même terreur. C'est normal. La chasse aux cachalots donne lieu à des scènes très violentes où ces animaux font preuve de beaucoup de ruse et de méchanceté. Comment, dès lors, des marins qui n'avaient pas entendu parler de Moby Dick pouvaient-ils savoir que cette baleine était la plus terrifiante de toutes? Sa taille dépassait celle de tous les individus de son espèce, qui est déjà l'espèce la plus grande des cétacés et la plus rusée. De nombreux bateaux, qui ne savaient pas à quoi s'attendre avec cet animal en particulier, avaient mis les pirogues à la mer. Or, la bête avait l'habitude de plonger, puis de faire volte-face pour foncer sur les pirogues. Dans ces cas-là, les harponneurs ne s'en sortaient pas avec une jambe cassée, un bras égratigné ou quelques plaies en sang. Oh non! L'attaque était presque toujours mortelle. Seuls de rares survivants, repêchés plus loin par d'autres baleiniers, avaient pu transmettre ces histoires qui paraissaient incroyables. On peut donc facilement comprendre que parmi les récits des pêcheurs, des croyances, des histoires fantastiques et des superstitions venaient se mêler à la réalité pour la rendre encore plus effrayante. C'est ainsi que Moby Dick nourrissait les rumeurs. Avec le temps, il n'est pas surprenant que les bruits qui couraient sur Moby Dick soient devenus délirants. On racontait que Moby Dick, le cachalot blanc, pouvait se dédoubler. Des marins qui chassaient la baleine du Groenland l'auraient aperçu. Et quelques jours plus tard, des marins qui naviguaient dans le Pacifique l'auraient également croisé. Cet animal gigantesque, capable d'aller en quelques jours du pôle Nord au Pacifique avec des harpons plantés dans les flancs, paraissait tout simplement surnaturel. Et pourtant, ce n'est pas parce que l'homme ne peut franchir ces distances à cette vitesse que la baleine n'en est pas capable. Était-ce une folie, une légende, ou était-ce la réalité? On ne le sait pas. Mais on sait que les cachalots sont si puissants qu'ils parcourent des centaines de kilomètres à une vitesse inimaginable pour l'homme. De plus, ils naviguent dans les profondeurs et ne sont dérangés ni par les rochers, ni par les blocs de glace, ni par les vents et les tempêtes, ce qui leur donne un avantage considérable sur les marins et leurs bateaux. Les marins ont beau être nombreux et armés, ils dépendent du relief et des éléments. C'est pourquoi certains baleiniers ont supposé que le passage du Nord-Ouest, longtemps impossible à traverser pour l'homme, n'a jamais représenté un problème pour les baleines. Certains y voyaient là la supériorité de l'animal sur l'homme, tandis que d'autres, la majorité, croyaient que Moby Dick avait des pouvoirs surnaturels. Ils allaient jusqu'à imaginer que le cachalot blanc était immortel. Malgré ces superstitions, et bien que connaissant la violence du monstre, des marins prêts à tout s'engageaient pour chasser Moby Dick. D'autres le combattaient sans hésiter s'ils le rencontraient, parce qu'ils ne s'intéressaient pas aux histoires surnaturelles, aux légendes ou aux superstitions. Pourtant, même cela était perturbé à la vue du cachalot blanc. De tous les cachalots, il était le plus monumental. De tous les cachalots, il était le plus puissant. De tous les cachalots, il était le seul à être entièrement blanc. Sa tête semblait déformée par un front étrangement ridé. Sa peau était blanche comme la neige. Une bosse haute, en forme de pyramide, blanche également, donnait à ce monstre marin un caractère unique. Du nord au sud, Moby Dick est le seul cachalot d'une telle blancheur, reconnaissable parmi tous les autres. Sur ce corps tout blanc, Des rayures et des taches blanches, elles aussi, se détachaient et lui donnaient une allure de fantôme des eaux, surtout vers midi, à l'heure où les rayons du soleil transforment la surface de l'océan en une étendue d'étoiles brillantes. À cette heure si particulière, quand ce gigantesque fantôme filait à la surface des flots, on aurait dit qu'il traversait la Voie lactée. Toutefois, plus que sa taille démesurée, plus que sa mâchoire déformée ou sa couleur fantomatique, c'était surtout son comportement qui terrifiait. La baleine blanche avait en effet démontré dans de nombreuses attaques qu'elle était capable de la pire méchanceté. Elle s'éloignait de ses attaquants, qui se croyaient alors vainqueurs, puis elle revenait soudain pour foncer sur eux et briser leurs pirogues, les obligeant à remonter sur leur bateau s'ils le pouvaient encore. Un jour, l'animal déchaîné, dans sa fureur, a brisé 3 pirogues. Le capitaine, hors de lui, a attrapé un couteau et a sauté sur sa tête. Ce capitaine avait l'espoir fou de lui arracher le cœur. Ce capitaine agissait sous le coup d'une impulsion passionnée après avoir vu ses hommes mourir dans d'atroces conditions. Ce capitaine, secoué par la fureur de la baleine, a glissé. La mâchoire du monstre s'est ouverte et a déchiré la jambe du capitaine. C'était le capitaine Ahab. Remonté à bord par le reste de l'équipage et obligé de rentrer à Nantucket, Ahab a vécu des mois interminables, des jours sans fin. Jour et nuit, allongé dans son hamac, lui et son angoisse ne faisaient qu'un. Sa fureur et sa souffrance étaient telles qu'il en devenait totalement fou. Sa fureur et sa souffrance étaient telles que ses hommes d'équipage ont dû l'attacher à son hamac. Dans cet état, il est passé au large de la Patagonie. Puis, arrivé dans les eaux équatoriales, plus douces, plus calmes, plus chaudes, il s'est apaisé en apparence. En réalité, il a développé une véritable folie intérieure, une violente fureur qu'il a cachée pour pouvoir reprendre le commandement du navire. Ensuite, des armateurs cupides ont peut-être confié leur bateau au capitaine Ahab en pensant que la perte de sa jambe lui donnerait la violence nécessaire à tout chasseur de baleines. Mais, j'en suis sûr, il ne devait pas se douter du vrai but d'Ahab, tout entier tourné vers sa vengeance. Et même à bord, les premiers mois du voyage, le capitaine Ahab, évitant de se montrer, a su dissimuler sa volonté à son équipage.